J'aimais éperdument la comtesse de... J'avais 20 ans et j'étais ingénu. Elle me trompa, je me fâchai, elle me quitta. J'étais ingénu, je la regrettai. J'avais 20 ans, elle me pardonna. Et comme j'avais 20 ans, que j'étais ingénu, toujours trompé, mais plus quitté, je me croyais l'amant le mieux aimé, partant le plus heureux des hommes. Elle était amie de Madame de T, qui semblait avoir quelques projets sur ma personne, mais sans que sa dignité fût compromise. Comme on le verra, Madame de T avait des principes de décence auxquels elle était scrupuleusement attachée. Un jour que j'allais attendre la comtesse dans sa loge, je m'entends appeler de la loge voisine. N'était-ce pas encore la décente, Madame de T ? Quoi, déjà, me dit-on, quel désœuvrement ? Venez donc près de moi. J'étais loin de m'attendre à tout ce que cette rencontre allait avoir de romanesque et d'extraordinaire. On va vite avec l'imagination des femmes et, dans ce moment, celle de Madame de T fut singulièrement inspirée. « Il faut, me dit-elle, que je vous sauve le ridicule d'une pareille solitude, puisque vous voilà, il faut... L'idée est excellente. » Il semble qu'une main divine vous ait conduit ici. Auriez-vous par hasard des projets pour ce soir? Il serait vain, je vous en avertis. Point de question, point de résistance. Appelez mes gens. Vous êtes charmant. Je me prosterne, on me presse de descendre. J'obéis. Allez chez monsieur, dit-on à un domestique, avertissez qu'il ne rentrera pas ce soir. Puis, on lui parle à l'oreille et on le congédie. Je veux hasarder quelques mots, l'opéra commence, on me fait taire, on écoute, ou l'on fait semblant d'écouter. À peine le premier acte est-il fini, que le même domestique rapporte un billet à Madame de T en lui disant que tout est prêt. Elle sourit, me demande la main, descend, me fait entrer dans sa voiture et je suis déjà hors de la ville avant d'avoir pu m'informer de ce qu'on voulait faire de moi. Chaque fois que je hasardais une question, on répondait par un éclat de rire. Si je n'avais bien su qu'elle était femme à grande passion et que dans l'instant même elle avait une inclination dont elle ne pouvait ignorer que je fusse instruit, j'aurais été tenté de me croire en bonne fortune. Elle connaissait également la situation de mon cœur, car la comtesse de était, comme je l'ai déjà dit, l'amie intime de Madame de T. Je me défendis donc toute idée présomptueuse et j'attendis les événements. Nous relayâmes et repartîmes comme l'éclair. Cela commençait à me paraître plus sérieux. Je demandais avec plus d'instance jusqu'où me mènerait cette plaisanterie. Elle vous mènera dans un très beau séjour, mais devinez où? Oh, je vous le donne en mille. Chez mon mari. Le connaissez-vous? Pas du tout. Je crois que vous en serez content. On nous réconcilie. Il y a 6 mois que cela se négocie et il y en a un que nous nous écrivons. Il est, je pense, assez galant à moi d'aller le trouver. Oui, mais s'il vous plaît, que ferais-je là, moi? À quoi puis-je y être bon? Ce sont mes affaires. J'ai craint l'ennui d'un tête-à-tête, vous êtes aimable et je suis bien aise de vous avoir. Prendre le jour d'un raccommodement pour me présenter, cela me paraît Bizarre, vous me feriez croire que je suis sans conséquence. Ajoutez à cela l'air d'embarras qu'on apporte à une première entrevue. En vérité, je ne vois rien de plaisant pour tous les trois dans la démarche que vous allez faire. Ah, point de morale, je vous en conjure. Vous manquez l'objet de votre emploi. Il faut m'amuser, me distraire et non me prêcher. Je la vis si décidée que je pris le parti de l'être autant qu'elle. Je me mis à rire de mon personnage et nous devînmes très gais. Nous avions changé une seconde fois de chevaux. Le flambeau mystérieux de la nuit éclairait un ciel pur et répandait un demi-jour très voluptueux. Nous approchions du lieu où allait finir le tête-à-tête. On me faisait par intervalles admirer la beauté du paysage, le calme de la nuit, le silence touchant de la nature. Pour admirer ensemble, comme de raison, nous nous penchions à la même portière. Le mouvement de la voiture faisait que le visage de Madame de T et le mien s'entretouchaient. Dans un choc imprévu, elle me serra la main et moi, par le plus grand hasard du monde, je la retins entre mes bras. Dans cette attitude, je ne sais ce que nous cherchions à voir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les objets se brouillaient à mes yeux lorsqu'on se débarrassa de moi brusquement et qu'on se rejeta au fond du carrosse. Votre projet, dit-on, après une rêverie assez profonde, est-il de me convaincre de l'imprudence de ma démarche? Je fus embarrassé de la question. Des projets, avec vous, quel du prix, vous les verriez venir de trop loin, mais un hasard, une surprise, cela se pardonne. Vous avez compté là-dessus, à ce qu'il me semble. Nous en étions là, sans presque nous apercevoir que nous entrions dans l'avant-cour du château. Tout était éclairé. Tout annonçait la joie, excepté la figure du maître qui était rétive à l'exprimer. Un air languissant ne montrait en lui le besoin d'une réconciliation que pour des raisons de famille. La bienséance amène cependant monsieur de T jusqu'à la portière. On me présente, il offre la main et je suis, en rêvant à mon personnage passé, présent et à venir. Je parcours des salons décorés avec autant de goût que de magnificence, car le maître de la maison raffinait sur toutes les recherches de luxe. Il s'étudiait à ranimer les ressources d'un physique éteint par des images de volupté. Ne sachant que dire, je me sauvais par l'admiration. La déesse s'empresse de faire les honneurs du temple et d'en recevoir les compliments. Vous ne voyez rien. Il faut que je vous mène à l'appartement de monsieur. Madame, il y a 5 ans que je l'ai fait démolir. Ah ah, dit-elle. À souper, ne voilà-t-il pas qu'elle s'avise d'offrir à monsieur du veau de rivière et que monsieur lui répond, Madame, il y a 3 ans que je suis au lait. Ah, ah, dit-elle encore. Qu'on se peigne une conversation entre 3 êtres si étonnés de se trouver ensemble. Le souper fini. J'imaginais que nous nous coucherions de bonne heure, mais je n'imaginais bien que pour le mari. En entrant dans le salon, je vous sais gré, madame, dit-il, de la précaution que vous avez eue d'amener monsieur. Vous avez jugé que j'étais de méchantes ressources pour la veiller, et vous avez bien jugé, car je me retire. Puis, se tournant de mon côté, il ajouta d'un air ironique, « Monsieur voudra bien me pardonner et se charger de mes excuses auprès de madame. » Il nous quitta. Nous nous regardâmes. Et pour nous distraire de toute réflexion, Madame de T me proposa de faire un tour sur la terrasse, en attendant que les gens eussent soupé. La nuit était superbe. Elle laissait entrevoir les objets et semblait ne les voiler que pour donner plus d'essor à l'imagination. Le château, ainsi que les jardins, appuyés contre une montagne, descendaient en terrasse jusque sur les rives de la Seine. Et ces sinuosités multipliées formaient de petites îles agrestes et pittoresques qui variaient les tableaux et augmentaient le charme de ce beau lieu. Ce fut sur la plus longue de ces terrasses que nous nous promenâmes d'abord. Elle était couverte d'arbres épais. On s'était remis de l'espèce de persiflage qu'on venait d'essuyer. Et tout en se promenant, on me fit quelques confidences. Les confidences s'attirent. J'en faisais à mon tour, elle devenait toujours plus intime et plus intéressante. Il y avait longtemps que nous marchions. Elle m'avait d'abord donné son bras, ensuite ce bras s'était entrelacé, je ne sais comment, tandis que le mien la soulevait et l'empêchait presque de poser à terre. L'attitude était agréable, mais fatigante à la longue. Et nous avions encore bien des choses à nous dire. Un banc de gazon se présente, on s'y assied, sans changer d'attitude. Ce fut dans cette position que nous commençâmes à faire l'éloge de la confiance, de son charme, de ses douceurs. Et, me dit-elle, qui peut en jouir mieux que nous, avec moins d'effroi. Je sais trop combien vous tenez au lien que je vous connais pour avoir rien à redouter auprès de vous. Peut-être voulait-elle être contrariée. Je n'en fis rien. Nous nous persuadâmes donc mutuellement qu'il était impossible que nous puissions jamais nous être autre chose que ce que nous nous étions alors. J'appréhendais cependant, lui dis-je, que la surprise de tantôt n'eût effrayé votre esprit. Je ne m'alarme pas si aisément. Je crains cependant qu'elle ne vous ait laissé quelques nuages. Oh, que faut-il pour vous rassurer? Vous ne devinez pas. Je souhaite d'être éclairci. J'ai besoin d'être sûr que vous me pardonnez. Et pour cela, il faudrait que vous m'accordiez ici ce baiser que le hasard... Ah, je le veux bien. Vous seriez trop fier si je le refusais. Votre amour propre vous ferait croire que je vous crains. On voulut prévenir les illusions et j'eus le baiser. Il en est des baisers comme des confidences. Il s'attire, il s'accélère, il s'échauffe les uns par les autres. En effet, le premier ne fut pas plus tôt donné qu'un second le suivit, puis un autre. Ils se pressaient, ils entrecoupaient la conversation, ils la remplaçaient. À peine enfin laissait-il au soupir la liberté de s'échapper. Le silence survint. On l'entendit, car on entend quelquefois le silence. Il effraya. Nous nous levâmes sans mot dire et recommençâmes à marcher. Il faut rentrer, dit-elle, l'air du soir ne nous vaut rien. Je le crois moins dangereux pour vous, lui répondis-je. Oui, je suis moins susceptible qu'une autre, mais n'importe, rentrons. C'est par égard pour moi, sans doute, vous voulez me défendre contre le danger des impressions d'une telle promenade et des suites qu'elle pourrait avoir pour moi seule. c'est donner de la délicatesse à mes motifs. Je le veux bien comme cela, mais rentrons. Je l'exige. Propos gauche, qu'il faut passer à deux êtres qui s'efforcent de prononcer tant bien que mal toute autre chose que ce qu'ils ont à dire. Elle me força de reprendre le chemin du château. Je ne savais du moins si ce parti était une violence qu'elle se faisait, si c'était une résolution bien décidée, ou si elle partageait le chagrin que j'avais de voir terminer ainsi une scène si bien commencée. Mais par un mutuel instinct, nos pas se ralentissaient, nous cheminions tristement, mécontents l'un de l'autre et de nous-mêmes. Nous ne savions ni à qui, ni à quoi nous en prendre. Nous n'étions ni l'un ni l'autre en droit de rien exiger, de rien demander. Nous n'avions pas seulement la ressource d'un reproche. Qu'une querelle nous aurait soulagés, mais où la prendre ? Cependant, nous approchions, occupés en silence, de nous soustraire aux devoirs que nous nous étions imposés si maladroitement. Nous touchions à la porte lorsqu'enfin, Madame de T parla. Je suis peu contente de vous. Après la confiance que je vous ai montrée, il est mal, si mal, de ne m'en accorder aucune. Voyez si, depuis que nous sommes ensemble, vous m'avez dit un mot de la comtesse. Il est pourtant si doux de parler de ce qu'on aime, et vous ne pouvez douter que je ne vous eusse écouté avec intérêt. C'était bien le moins que j'eusse pour vous cette complaisance après avoir risqué de vous priver d'elle. N'ai-je pas le même reproche à vous faire et n'auriez-vous point paré à bien des choses si au lieu de me rendre confident d'une réconciliation avec un mari, vous m'aviez parlé d'un choix plus convenable, d'un choix... Je vous arrête. Songez qu'un soupçon seul nous blesse. Pour peu que vous connaissiez les femmes, vous savez qu'il faut les attendre sur les confidences. Revenons à vous. Où en êtes-vous avec mon ami ? Vous rend-on bien heureux ? Ah, je crains le contraire. Cela m'afflige, car je m'intéresse si tendrement à vous. Oui, monsieur, je m'y intéresse.